Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. Le cheval et l'âne ont fait tellement partie de nos vies qu'on y fait référence constamment dans le langage courant. Les expressions et les proverbes en fournissent de nombreux exemples, sans compter les réparties de nos grands hommes à coups de bons mots et de citations qui font, elles aussi, partie de nos références culturelles. Je vous propose d'en découvrir certaines sur le cheval aujourd'hui. Avoir une fièvre de cheval, prendre le mort aux dents. Voici tout de suite deux expressions parmi les plus connues quand on pense aux chevaux dans le langage courant. On utilise la première pour parler d'un malade qui a beaucoup de fièvre. Pourtant, elle n'a que peu de rapport avec la réalité car la température normale d'un cheval se situe entre 37 et 38,2 et donc il est considéré fiévreux à partir de 38,5. Mais alors, pourquoi dit-on avoir une fièvre de cheval ? Diderot évoque le danger de la fièvre chez le cheval dans son encyclopédie dès le XVIIIe siècle. L'expression pourrait symboliser l'inquiétude que peuvent avoir les paysans à l'idée de perdre leur cheval, précieux compagnon de travail. Une autre explication était également avancée. L'expression pourrait être liée à Daniel Gabriel Fahrenheit, le physicien allemand à l'origine de l'unité de mesure de température qui porte son nom. Il a établi la température de référence la plus basse en prenant en compte la température la plus froide qu'il ait recensée l'hiver à Danzig, soit 0 degré Fahrenheit, tandis que la température la plus haute est étalonnée sur la température du sang du cheval, 96 degrés Fahrenheit. Restons dans le domaine de la santé. Pour lutter contre une fièvre de cheval, rien de mieux qu'un remède ou traitement de cheval. Pour remettre un cheval sur pied, il ne faut pas lésiner sur les moyens, l'animal étant grand et fort. Employer le terme pour l'homme revient à dire qu'un traitement ordinaire ne suffit pas, on aura donc recours à un remède ou un traitement très fort, mais très efficace. Autre référence à la santé que ce proverbe, les maladies viennent à cheval et s'en retournent à pied. Pour bien le comprendre, on peut se reporter à l'illustration qui en a été faite au XVIIe siècle dans un album de contes moraux datant de 1665. L'explication en est donnée sous la forme d'une gravure montrant un homme alité. Par la fenêtre de la chambre, on aperçoit sur la droite deux cavaliers, au-dessus d'eux les mots « la peste » et « la fièvre ». Sur la gauche, deux hommes dont l'un s'appuie sur des cannes. Sous le lit du malade, on peut lire les mots suivants. Par proverbe commun, on dit la maladie vient à nous à cheval et s'en retourne à pied. C'est que le plus souvent, on en est estropié ou nous surprend devant que l'on remède. On peut lire également sur le banc placé sous le lit. On se passe bien de telles visites. Ce proverbe semble donc nous dire que le mal nous surprend presque toujours au dépourvu et qu'on en a bien du mal à s'en débarrasser. Changeons d'univers. Voici maintenant un certain nombre d'expressions et de proverbes liés au bon comportement dont l'homme fait preuve ou devrait faire preuve envers son cheval. La plus connue est certainement « qui veut voyager loin ménage sa monture ». Et bien évident que si on épuise son cheval, celui-ci finira par s'arrêter ou s'écrouler. Le cavalier n'en sera pas plus avancé. Mais sait-on qu'il s'agit ici d'une citation tirée d'une pièce de Jean Racine, « Les plaideurs », écrite en 1668. L'expression nous conseille donc de faire preuve de sagesse et de garder sa force et son énergie pour durer ou atteindre un objet difficile. Dans le même genre, c'est ce que nous dit également un proverbe russe. « Cheval mal nourri ne va pas loin ». Et un autre proverbe français du XIXe siècle, « Bien mérite d'aller à pied qui n'a soin de son cheval ». Ou encore, il faut à tout cheval un bon palefrenier comme à toute ferme un bon cultivateur. On le voit bien, la sagesse populaire ne nous dit pas autre chose que de savoir tempérer ses ambitions et ne pas abuser de ses privilèges. Seul l'homme de qualité pourra réussir. Parler de chevaux, c'est aussi parler d'équitation et par là même, on ne sera pas étonné de trouver des expressions autour du mot « mort », cet accessoire que l'on place dans la bouche du cheval quand on l'harnache. La plus connue est bien sûr « prendre le mort aux dents ». Cette expression date du XVIe siècle et comme tout cavalier le sait, le cheval prend le mort aux dents quand il s'emballe et son cavalier ne peut plus le contrôler. Le premier sens de l'expression est donc celui de l'emballement. Le cheval n'en fait plus qu'à sa tête. Le deuxième sens vient du fait que c'est le cheval qui décide, mais dans un sens positif. Car prendre le mort aux dents, c'est ici faire preuve d'ardeur dans l'exécution d'une bonne résolution. Le troisième sens renvoie lui à la colère. On prend le mort aux dents quand on est contrarié. Restons dans l'univers du mort. Un proverbe danois du XVIIIe siècle nous dit « un rude mort ne rend pas le cheval meilleur ». Ce n'est donc pas par la violence que l'on obtient quelque chose. Quant au proverbe français « mort dorée ne rend pas le cheval meilleur », il nous indique que l'apparence ne fait pas tout. Comme on le sait, le monde du cheval, c'est aussi celui des maquignons. Ces marchands qui peuvent abuser de la crédulité ou du manque de connaissance des clients pour leur vendre un mauvais cheval ou qui ne leur convient pas. Quand tu achètes cheval ou bœuf, ouvre les yeux, sinon tu videras ta bourse, nous dit ce proverbe agricole du XIXe siècle. Et pour ne pas se tromper sur l'âge d'un cheval, il faut bien sûr regarder ses dents. L'expression « à cheval donné ne regarde pas les dents » ou la bouche, hein, il y a deux versions, nous dit qu'il faut accepter les cadeaux avec bonne grâce, peu importe leur valeur. Il s'agit d'une expression très ancienne, puisqu'elle était déjà utilisée en latin médiéval, sous la forme « non opportet equidentes inspicere donati ». Cela nous amène maintenant à évoquer le cheval et l'âne avec leurs caractéristiques. Tout d'abord, on peut dire d'une personne qu'elle n'est pas un mauvais cheval. Il s'agit donc d'une qualité, cette personne étant décrite comme plutôt gentille, malgré des aspects peut-être revêches. Il ne faut pas se fier aux apparences. L'expression « on ne saurait faire d'un âne un cheval de course » est très explicite. D'un côté, nous avons l'âne, symbole lent mais endurant. De l'autre, le cheval, performant et rapide. Deux équidés que l'on veut opposer, mais qui sont différents. Il faut donc les accepter pour ce qu'ils sont et ne pas les obliger à faire quelque chose qui ne leur convient pas. C'est aussi ce que nous dit le proverbe chinois « bride de cheval ne va pas à un âne » ou encore cet autre proverbe français « ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval ». Nous allons maintenant écouter Renaud, les mots.
C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poème, chanson, brûlot vous ouvre des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmènent mon esprit vers le haut, emmènent mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
Les proverbes orientaux n'hésitent pas à mettre en avant la relation homme-cheval. Ainsi, le bon cavalier fait le bon cheval, met en avant ce que l'expérience et la sagesse permettent de construire. C'est également ce que suggère ce proverbe tibétain : un bon cheval doit savoir porter son maître dans une montée et un bon cavalier doit savoir mettre pied à terre dans la descente. De même, le proverbe « bon cheval juge son cavalier » met à nouveau en avance que ce n'est pas parce qu'on est sur le dos d'un cheval qu'on est un bon cavalier. On ne peut pas mentir au cheval qui sait tout de suite à qui il a affaire. Il faut donc ne pas viser ce que l'on ne peut pas atteindre et accepter ce dont on est capable. C'est également ce que dit ce proverbe espagnol « J'aime mieux un âne qui me porte qu'un cheval qui me désarçonne ». Toujours selon la sagesse populaire espagnole, l'expression « à cheval neuf, bon cavalier » met en avant l'expérience face à la fougue et la jeunesse. Enfin, s'approprier ce qui n'est pas à soi ne peut que mal finir, c'est ce que semble suggérer ce proverbe turc « qui monte le cheval d'autrui sera bientôt à terre ». Certaines expressions et proverbes renvoient aussi à la nature du cheval. Comme l'indique un autre proverbe turc, on n'attrape pas le cheval avec un sac vide, qui pourrait être peut-être l'équivalent chez nous de « il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles ». Dans un même ordre d'idées, un proverbe irlandais nous dit « on peut amener le cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire ». Même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose contre leur gré. Quant au proverbe zigane, si tu veux dire la vérité, assure-toi que tu as un bon cheval. Il serait l'équivalent de « toute vérité n'est pas bonne à dire » et le prix à payer pour de telles révélations peut être dangereux. On sait combien la vitesse des chevaux a sauvé la vie à bien des cavaliers. Autre expression très populaire dans la langue française, « monter sur ses grands chevaux ». Cette expression nous renvoie au Moyen-Âge et au champ de bataille. Les chevaliers montaient sur leurs grands chevaux pour partir au combat. Il leur fallait du courage et de la fougue pour affronter leurs ennemis. Par ailleurs, au XVIe siècle, certains souliers à talons hauts furent appelés « grands chevaux ». Par analogie à la cour de Lunéville, quatre anciennes familles de rang élevé portèrent le titre de « grands chevaux de Lorraine ». La prétention des 8 à 12 autres familles désignées « petits chevaux » à rejoindre les quatre grands donna naissance à l'expression. Aujourd'hui, l'expression est limitée à la fougue, celle de quelqu'un qui s'emporte ou se met en colère. De même, pour rester dans le domaine de la guerre, on parlera de « cheval de bataille » pour évoquer un thème de prédilection, le sujet d'une passion. La légende veut que ce soit les chevaux les plus fougueux qui étaient utilisés lors des guerres. Lorsque quelqu'un enfourche son cheval de bataille, il se lance dans des discussions enflammées, prêt à en découdre avec son interlocuteur. Une autre interprétation veut que l'expression provienne de l'anglais « hobby horse », qui est un jouet qu'enfourchent les enfants, un bâton à tête de cheval. Et on parle alors d'enfourcher son dada, d'où l'expression « c'est son dada », son idée préférée. On retrouve cette référence dans « Tristram Shandy », le roman de Laurence Sterne paru en 1759, où on emploie le terme de « hobby horse » dans le sens d'idée fixe pour la première fois. Autre expression propre au français. Cela ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. À l'origine, il s'agit d'une expression du XVIe siècle. Ça ne se trouve pas sous les pas d'un cheval. Soit après son passage ou sur ses traces. Or, après le passage, que trouve-t-on ? Du crottin qui n'a aucune valeur. Donc, à l'opposé du crottin, ce que l'on ne trouve pas est rare et cher. Avant de terminer cette émission, je vais revenir sur une expression qui est également entrée dans la langue française, la plus noble conquête de l'homme. Car c'est ainsi que l'on qualifie souvent le cheval. Nous la devons au naturaliste Georges-Louis Buffon dans un article paru dans son tome 4 de l'Histoire naturelle, soit 36 volumes publiés entre 1749 et 1789. Je vous lis le début du premier paragraphe qui s'ouvre sur ces mots. La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Aussi intrépide que son maître, le cheval voit le péril et l'affronte, il se fait au bruit des armes, il l'aime, il le cherche et s'anime de la même ardeur. Il partage aussi ses plaisirs à la chasse, au tournoi, à la course, il brille, il étincelle. mais docile autant que courageux, il ne se laisse point emporter à son feu. Ce à quoi Alfred Jarry, l'auteur de Uburoi, répondra dans ses Pensées hippiques de 1911, la plus noble conquête du cheval, c'est la femme. Quant à l'écrivain Jules Renard, il n'hésita pas à décrire le cheval avec cet humour caustique qui caractérise son œuvre. Cheval, le seul animal dans lequel on puisse planter des clous. Winston Churchill était lui aussi amateur de bons mots. L'image du vieux politicien au cigare qui a mené l'Angleterre à la victoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale a quelque peu occulté celle du cavalier. Churchill était entre autres un excellent joueur de polo, sport dans lequel il excella lorsqu'il était en poste aux Indes. C'était également un grand passionné de chasse à cours et il monta à cheval jusqu'à l'âge de 74 ans et se tourna ensuite vers les courses en tant que propriétaire éleveur. Sa passion pour les chevaux n'était pas feinte. On se souviendra de sa colère quand il apprit l'inaction du département chargé du transport des chevaux après la Première Guerre mondiale, intervenant personnellement pour augmenter le nombre des bateaux chargés de leur rapatriement en Grande-Bretagne. Voici donc quelques aphorismes de Churchill sur les chevaux. L'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme. Ou encore celle-ci, le cheval est dangereux devant, dangereux derrière et inconfortable au milieu. Il écrit également « Personne n'a connu le chagrin, sauf un chagrin honorable, quand on monte à cheval. Aucune heure n'est gâchée si elle est passée en selle. Des jeunes hommes ont souvent été ruinés pour avoir possédé des chevaux ou pour avoir parié sur eux, mais jamais pour les avoir montés, à moins bien sûr qu'ils se soient brisés le cou, ce qui, au galop, est une bonne manière de mourir. » Ou encore « Ne donnez pas d'argent à votre fils. » Si vous pouvez vous le permettre, donnez-lui un cheval. Churchill sait également se faire poète. Les chevaux nous prêtent les ailes qui nous manquent. Et nous terminerons avec celle-ci. Le cheval est un partenaire qui ne parle pas notre langue, mais qui comprend notre cœur. Comme nous avons pu le voir avec ce tour de France et du monde, des proverbes et des expressions qui comportent le mot cheval, ce dernier a fortement imprégné nos vies. Même si aujourd'hui on ignore leur origine, il et elle sont ancrés dans notre inconscient, témoignant du rôle fondamental que le cheval a joué dans la vie des humains. Que sommes-nous sans lui ? Shakespeare l'avait bien compris lorsqu'il fit dire à Richard III dans la pièce du même nom, ce vers célèbre, un cheval, mon royaume pour un cheval. Mais voilà là un autre thème que nous aurons à cœur d'explorer un de ces jours. Bonne semaine à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine émission des Messagers du Cheval.